Bonjour à tous et bienvenue dans Module Onde. Module Onde, c'est l'émission proposée par Radio Ondaine et le site Le Corbusier de Firmini. Pour ce mois d'avril, nous vous proposons un focus sur la rue des Transitions. Tissons la ville de demain, une exposition installée jusqu'au 12 janvier 2025 en église Saint-Pierre de Le Corbusier. Imaginée et créée entre autres par Caroline Namanovic et Costanza Matteucci, designer, cette exposition participative nous amène à imaginer, à explorer une ville dans un futur plus ou moins proche, dénué d'énergie fossile. Et ben, nous avons la chance dans cette émission Module Onde de recevoir Costanza et Caroline à l'approche du vernissage, on va dire. On va dater cette émission dans le temps, effectivement. Dans quelques jours, c'est le vernissage de cette expo. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Qui êtes-vous ?
Costanza, tu veux...
Eh bien, nous sommes deux designers, bien que nous soyons designeuses, intimité.
Donc Caroline Manovic, je suis designer indépendante, je suis basée à Chambéry et je travaille également à l'université Grenoble-Alpes dans un groupe qui s'appelle la Design Factory, donc c'est un groupe pluridisciplinaire où on travaille sur des enjeux de transition sociale et énergétique.
Et moi je suis Costanza Matteucci, designeuse ou designer indépendant basée à Saint-Étienne.
Alors, notre rencontre se fait dans le cadre de cette exposition, une exposition installée en église Saint-Pierre, la rue des Transitions, tissons la ville de demain. Une exposition qui, à l'instar de nombreux autres de ces années précédentes, répond à un appel à projet, un appel d'offres, une proposition de candidature de la part du site Le Corbusier. Alors, tissons la rue des Transitions, tissons la ville de demain. Comment vous avez eu connaissance de ce projet-là? Comment vous êtes associé? Comment vous avez présenté ce projet avant la mise en place?
Alors, l'appel d'offres a été publié au cours de l'été. Et il s'avérait que c'était un peu la période où, voilà, moi, je m'installais dans la région Rhône-Alpes et nous reprenions contact avec Costanza puisque nous avions travaillé sur des projets précédemment. Et très vite, cet appel à projet nous a beaucoup plu. On y a vu l'opportunité d'expérimenter des choses ensemble et puis même au-delà, avec la ville, avec les habitants. On s'est associé assez rapidement à un chercheur qui s'appelle Charles Ambrosino, qui est directeur de master à l'IUGA, l'Institut d'urbanisme, et qui nous a également... conseillé, on a pu avoir des discussions avec lui pour aborder ce projet.
Voilà. Je pense que la thématique aussi, ça nous intéressait en tant que citoyens et puis dans notre parcours intellectuel, c'est arrivé vraiment au bon moment, donc de se questionner qui fait la ville et qu'est-ce qu'on peut faire pour cette ville qui change très vite et qui change sous des contraintes extrêmement fortes, comme l'utilisation de l'énergie, les déplacements, qu'est-ce qu'on mange, comment on voyage, etc. Donc voilà. C'est vraiment, ça faisait écho.
Ça, c'est ce qu'on va découvrir dans cette exposition, en restant un peu sur cette écriture. Qu'est-ce qui a fait, à votre avis, d'avoir été sélectionné? Quels ont été les éléments qui ont séduit les équipes du site Le Corbusier et notamment Géraldine Dabrigeon, donc directrice conservatrice et puis commissaire d'exposition aussi avec vous pour celle-ci?
Alors c'est toujours difficile de se positionner par rapport à ça, puisque probablement qu'il y a eu beaucoup de projets qualitatifs qui ont été présentés. La particularité de notre projet, c'est qu'on a vraiment pris à bras le corps ce questionnement en évitant un rapport qui soit descendant vis-à-vis du visiteur. Et ce qu'on voulait à tout prix, c'était... éviter d'imposer ou de proposer des choses qui se proposeraient comme des solutions. Et donc notre parti pris, ça a été de mettre le visiteur en action. Donc en fait, on lui propose pas des scénarios de solutions sur la question des énergies ou de la transition environnementale, mais on propose à chacun en fait d'apporter sa contribution, son regard, puisqu'au final, c'est un choix de société qui se propose à nous tous. Tant qu'habitant.
Je pense que lors de la présentation, on avait l'air de douter tellement sur toutes les questions que nous étions les designers idéaux pour une exposition qui, justement, est basée sur les questions.
Alors effectivement, ça interroge sur notre futur. L'idée est de s'imaginer ou de faire imaginer, de co-construire peut-être la ville de demain en se basant sur ce quartier aussi de Firminiver qui a été à un moment donné en adéquation, voire en avance sur son temps avec ses logements, avec le développement de structures comme ici l'unité d'habitation Le Corbusier. Alors effectivement, le visiteur est amené à participer à cette exposition. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est une exposition qui va évoluer tout au long de ces mois-là. En tout cas, elle est divisée en plusieurs pièces, plusieurs espaces, 6 au total. Quels sont-ils ?
Alors, peut-être pour repositionner un peu le projet, en fait, quand le site Le Corbusier a lancé son appel à projet, ils l'ont fait en lien avec un travail de recherche qui a été mené par l'école d'architecture. Un rapport de recherche qui avait été écrit qui s'appelait Ensemble moderne en transition. Donc on repart de cet ensemble moderne et notre postulat de départ c'est de dire bah voilà, finalement à travers la charte d'Athènes, à travers son travail, Le Corbusier proposait en fait un modèle d'aménagement du territoire, un modèle de construction des habitations. Et la transition se positionne sur un autre paradigme. Et on a voulu rendre visible cet autre paradigme. Et cette première salle, elle propose des grandes impressions de la ville de Firminy, donc des photos qui sont issues des archives de la ville, des photos que nous avons prises nous-mêmes. Et ce qu'on propose aux visiteurs, c'est de broder par-dessus cette ville-là. Il y a une citation de Le Comte Grisot qui dit que 80% de la ville est déjà présente. C'est aussi dire que voilà, peut-être que la ville dans laquelle on se projette dans le futur, elle est déjà en grande partie construite. Et c'est dans ce monde de ressources finies, en fait, finalement, qu'on va se questionner.
Peut-être on peut juste brièvement expliquer qu'est-ce que ça signifie le mot transition.
Tout à fait. Ça a été un des éléments avec Charles Ambrosino. En fait, jusque dans les années 90, on parlait notamment de ville durable. Et ce qui importait principalement, c'était la question des émissions de CO2. Et la transition, elle est un peu, le concept de transition, il est un peu différent. La transition, c'est dire que voilà, il va y avoir des pics pétroliers. Donc des pics pétroliers qui vont faire que notre niveau de vie ne pourra plus tel qu'il est maintenant, en fait, ne pourra plus être soutenu par les ressources pétrolières. Et donc finalement, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on aménage, qu'est-ce qu'on décide collectivement pour tenir ce choc pétrolier. Et donc nous également, voilà, le principe de notre exposition, ce qu'on propose, c'est de projeter les visiteurs à Firminy en 2050, donc sans énergie fossile, donc ni pétrolière, ni charbon, gaz. Et finalement, donc dans ces 6 salles, on va être confronté à des choix, des décisions. On va demander l'avis des visiteurs. Donc voilà, c'est tout ça qu'englobe la question de la ville en transition, qui a été initiée à l'origine, ce concept, par les mouvements de permaculteurs, notamment par Rob Hopkins, et qui disait qu'il fallait vraiment prendre à bras-le-corps ces questions en prenant les citoyens, l'ensemble des habitants dans le processus.
Alors, le visiteur est aussi pris en compte. Alors, on va faire le tour de ces 6 salles. Et à chaque fois, il y a une mise en action proposée ici dans cette première salle qui s'appelle Permis de construire, retisser la ville. La mise en action proposée aux visiteurs, c'est retisser la ville au passé avec les idées d'aujourd'hui. Et ici, on va utiliser de la broderie, des fils. On va coudre, c'est ça ?
Tout à fait. Donc, on propose aux visiteurs de s'emparer d'une série de canevas. Sur ces canevas, il y a des images de Firminy, récentes ou moins récentes. Et on demande à chacun d'exprimer avec du fil coloré et cette technique de la broderie, qui peut être très savante ou alors complètement sauvage, d'exprimer quelle action feraient eux-mêmes sur la ville. Parce que c'est ce qui est important dans la ville en transition, c'est qu'il n'y a pas des savants qui savent qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui est bien pour la ville, il n'y a pas de certitude, mais il y a des expériences de vie, des expériences d'occupation de l'espace, etc., que chacun est amené, qui doit rendre commun pour que tout cet ensemble de voies trouve la solution temporaire, définitive, meilleure pour cette ville qui a les problèmes que nous connaissons Voilà, l'énergie, le transport, la pollution, l'eau, le manque d'eau, etc. Donc, avec cet élément très populaire et très simple d'usage, une aiguille et du fil, on invite à laisser une trace de qu'est-ce qui sont nos désirs et, ou nos vécus sur cette ville.
Alors, laisser une trace, c'est aussi ce qu'on découvre dans la pièce suivante, où là, une transformation totale, deux espaces et une piscine est construite. Hors d'eau, hein. Mais on a quand même ici cette volonté de surprendre, et cette piscine-là nous interroge aussi sur le coût de l'énergie. Le coût, c'est quelque chose qui est important dans l'exposition, notamment travailler sur des matériaux recyclés, que l'on recycle, réutiliser le matériel, et puis travailler aussi sur du local. Et là, vous avez fait appel à un carreleur local aussi pour construire cette piscine-là.
Tout à fait. Alors ça, c'était cette exposition, l'idée, c'était vraiment de, à la fois d'avoir un propos, mais de le faire par finalement ce qu'on énonce. Et tout est issu du réemploi, ou alors tout va retrouver une seconde vie à l'issue de l'exposition. Donc oui, c'est Pierre Nicolosi qui a carrelé la salle. Bon, on vous rassure tout de suite, hein, cet acte profane de carreler une salle Le Corbusier, tout est posé sur des plaques temporaires qui seront démontées puis réutilisées par la suite. Cette piscine, en effet, elle est là pour rendre présent un questionnement. La question qu'on va poser aux visiteurs, c'est finalement, est-ce que le bassin est à moitié plein, à moitié vide ? Avec la montée du coût de l'énergie, dernièrement, on a pu faire l'expérience de la fermeture des piscines municipales. Et ça interroge beaucoup, parce que c'est un commun qui fait partie, qui est au cœur de la ville, qui est un commun démocratique. Il y avait même des ronds dès l'Antiquité qui disaient si on va au forum, si on va au théâtre, qu'on porte la toge et qu'on va au bain, on est un citoyen romain. Donc c'est vraiment très ancré dans la culture. Et on va proposer un jeu de cartes postales aux visiteurs. Et on va leur proposer d'écrire, depuis 2050, un message à des personnes en 2023. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'ils veulent exprimer sensiblement à un voisin, un membre de leur famille, un habitant, peu importe. Voilà.
En poursuivant le cheminement et encore dans l'idée d'avoir des propositions, de faire participer le public, il y a aussi ce questionnement avec la rue relationnelle, c'est comme ça qu'est nommée cette troisième pièce, redéfinir en fait cette définition de la rue, qu'est-ce que c'est, à qui ça appartient, pour quel usage.
Oui, alors c'est en écho notamment au travail d'une chercheure qui s'appelle Sonia Lavadinho, qui est anthropologue et qui écrit sur la question de la ville relationnelle, donc en opposition à la ville fonctionnelle. Cette ville fonctionnelle, finalement, qui est très incarnée hein, dans la ville moderne, donc qui se maintient en permanence en termes d'infrastructures, etc. Et cette rue, en fait, on a choisi spécifiquement cet espace puisque Le Corbusier est... Enfin, dans la plupart de ces bâtiments, dans tous ces bâtiments, il y a des rues. Et historiquement, en fait, cette salle-là était d'ailleurs censée être une rue. Et dans cette hypothèse de 2050, il n'y a plus de pétrole. Donc on a mis tout un ensemble de marquages de parking. Et on se dit, potentiellement, il y a peut-être plus de véhicules. Qu'est-ce qu'on fait de ces espaces-là? Comment est-ce qu'on les transforme? Et est-ce qu'on peut le transformer pour faire du lien social? Et donc, on va y disposer une poubelle, notamment, avec des cartons. Et on va proposer aux visiteurs de s'emparer d'un de ces cartons et de faire une proposition pour faire vivre cette place relationnelle. Et ce carton, il va pouvoir le disposer dans l'espace. Et progressivement, en fait, toute cette rue, elle va se remplir de toutes ces propositions, de tous ces cartons. C'était une manière aussi pour nous de faire écho plastiquement, au mouvement des Occupy Wall Street qui avait eu lieu et où ça avait été un vrai sujet de comment est-ce qu'on occupe l'espace et ils avaient utilisé tous ces cartons. Voilà.
Alors la ville est quelque chose qui se développe, qui s'est beaucoup développé et qui grignote peu à peu la terre nourricière. Donc on arrive ici dans une quatrième pièce où là, surprise, un jardin entre guillemets. On peut cultiver des choses en église Saint-Pierre.
Tout à fait.
Oui, c'est un environnement très propice aux cultures. On a expérimenté. Il y a les premières plantes qui poussent. Il y a de la lumière, c'est une salle exposée au sud. Il y a de la chaleur parce que le soleil tape et très très vite ça monte. Donc vous verrez cette installation, c'est une série de cagettes C'est les cagettes qui servent à porter des légumes chez les horticulteurs, qui sont empilées, mais qui sont remplies de terre, de purin et de compost. On fait une petite parenthèse. Le compost a été offert par Compostonde, qui est une structure sur Firmini qui récupère les déchets organiques et qui produit ce compost. Mais pas seulement Firmini, il a aussi une autre structure qui est exceptionnelle, c'est la régie agricole, c'est-à-dire une unité à l'intérieur de la ville qui produit sur des terrains communaux, je suppose, un certain nombre des légumes et des fruits qui vont servir à alimenter les cantines des écoles et des EHPAD. Donc c'est un circuit fermé qui est très vertueux et c'est de ça qu'on voulait parler. Donc ils ont été vraiment très aidants sur cette installation. On remercie Alessandro Pellissier qui nous a vraiment chapeauté et suivi. Et l'idée, c'est d'installer dans cet espace clos un espèce de laboratoire sur quelles sont les choses qu'on peut cultiver simplement ou facilement dans une maison ou dans un petit lopin de terre. Et donc des légumes communs comme les oignons, les choux, les betteraves, les blettes. Mais aussi, on va aller chercher des légumes qui sont peut-être moins connus. On va essayer de réhabiliter le pissenlit qui est une herbe très intéressante pour ses propriétés et puis très facile à cultiver. Et puis ça va être un laboratoire où on va observer qu'est-ce qui se passe. Comment les plantes suivent la lumière, de combien d'eau elles ont besoin et puis qu'est-ce qu'on fait avec ces plantes qu'on a fait.
Et alors, la mise en action qu'on propose aux visiteurs sur cette salle, c'est en référence à un travail mené par des chercheurs du Origen Media Lab, donc à l'ESC Clermont. Ils avaient créé tout un atelier sur la question de la notion d'attachement. Donc, c'est quelque chose qui est porté par Alexandre Monin. Et donc, on va mettre à disposition des visiteurs des rubans. Et à la manière d'un arbre à souhait japonais, on va leur proposer de s'interroger sur finalement leurs attachements concernant l'alimentation, les rituels autour du repas. Et on va leur demander en 2050 finalement qu'est-ce qu'ils ont décidé de garder. Qu'est-ce qu'ils ont gardé comme rituel, ingrédient qu'ils aiment utiliser. Ils l'écrivent sur le ruban et ensuite ils viennent le nouer à la manière d'un arbre à souhait japonais sur des barrières, des ganivelles de jardin. Et donc progressivement, cette salle, elle va s'enrichir de tout un tas d'attachements et de rubans. Voilà.
Alors, on arrive ensuite à cette question des transports. Une cinquième salle, trouver la bonne redirection. Une salle aussi participative où là, finalement, le décor va énormément évoluer, où on invitera le visiteur à mettre sa patte, à s'interroger sur des affiches qui seront proposées.
Oui. C'est une salle qui nous a beaucoup questionnés parce que la particularité des sujets qu'on aborde, il fallait bien les aborder comme des sujets isolés et en même temps c'est toujours des problèmes qui sont complexes et systémiques. Et particulièrement la question des mobilités parce que ça interroge, on utilise un véhicule mais pour aller d'un point A à un point B, mais peut-être que, on peut prendre le problème à l'envers, peut-être que finalement on peut rapprocher le point A et le point B et avoir besoin de moins d'outils pour se déplacer, etc. Donc ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, notamment à l'intérieur de l'équipe avec les commissaires d'exposition. Et c'est une salle qu'on a partiellement fermée. Pour éviter de rentrer trop directement, donc on passe par des chemins de déviation. Et ce qui nous semblait important, c'était de parler du grand dissensus qui existe entre, d'un côté, quand on nous parle de mobilité du futur, il y a des entreprises qui nous projettent vers la voiture autonome, la voiture électrique, des taxis drones, donc des choses qui sont très liées aux nouvelles technologies. Puis de l'autre côté, des chercheurs sur les questions des transitions qui nous amènent à plus de sobriété. Et donc, on a fait un ensemble d'affiches publicitaires que les visiteurs vont pouvoir graffer, faire du graffiti dessus, avec la question suivante, c'est selon vous, quel modèle de société est-ce que ça suggère, en fait, ces affiches? Et ces affiches, on s'est beaucoup amusé avec Costanza parce que on les a travaillées avec un outil qui est l'intelligence artificielle. Et on était on était vraiment étonnés de voir les résultats que ça pouvait produire. En tout cas, il adore, il est très doué pour tout ce qui est solution pour nous amener sur la Lune. Il n'y a pas de doute.
Alors on termine aussi ce cheminement par la sixième salle et quand je dis on termine, c'est pas tout à fait ça, on reviendra sur cette idée. La sixième salle c'est En Résonance, autre proposition avec d'autres collaborations.
Oui, alors en résonance, donc c'est une salle assez particulière puisqu'il y a plusieurs types d'interventions. Et donc voilà, on passe de cette salle, on parle de la question de la mobilité, de la vitesse. Et donc là, on instaure un autre rapport même à l'espace, je veux dire, scénographique. On a eu on l'a pas précisé, mais en fait, il y a beaucoup des choses de l'exposition qu'on a préparées avec des ateliers. D'ailleurs, on tient à remercier Radio Onden.
Effectivement, pour un atelier de prise de son avec les enfants du centre social de centre d'animation.
Centre d'animation, centre de loisirs
de Firmes Univers.
Tout à fait. Donc en fait, on propose une autre forme d'expérience de l'espace aux visiteurs. On leur propose une installation sonore. Donc les sons qui ont été enregistrés, par les enfants du centre de loisirs dans la ville de Firmini, et le visiteur va avoir à disposition une table de mixage qui va lui permettre de composer le paysage sonore de cette ville de 2050. La pièce est habitée par les œuvres d'une artiste textile qui s'appelle Béatrice Bollard. Et ce sont des œuvres textiles qui reprennent des formes de lichen, de mousse, et qui viennent progressivement donc grignoter en fait cet espace de la salle. Le concept de résonance, il était important pour nous. Il fait référence au travail d'un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est issu de l'école de Francfort. Et c'est une notion qui nous paraissait très importante, et puis dans le sens où souvent quand on parle d'accélération, donc lui il parle d'accélération, on pense qu'il faut ralentir, décélérer. Alors c'est pas du tout le propos de Hartmut Rosa. Pour lui, il ne faut pas ralentir, mais il faut entrer en résonance. Et c'est un concept un peu particulier parce que c'est assez étonnant quand on parle de ça. Mais selon lui, ce qui contribue à l'accélération de la société, c'est le fait qu'on soit focalisé sur l'acquisition de ressources. Et finalement, c'est en rentrant en relation avec notre environnement qu'on sort de ce rapport-là. Donc cette salle, c'est une manière voilà, de sortir un petit peu de l'exposition et puis d'instaurer un autre rapport d'échelle.
Il y a aussi une atmosphère particulière dans cette salle autour d'une technique hein, de broderie avec de la laine, c'est ça, la confection de tapis. Expliquez-nous un peu cette...
Béatrice est une artiste textile qui travaille avec cette technique qui s'appelle la technique du tufting, qui consiste à projeter des brins de laine sur une toile. Donc, le résultat final, c'est une espèce de tapis, mais la technique permet infinie variation. Donc elle peut choisir la laine, l'épaisseur, etc. Et elle a beaucoup travaillé sur les matières organiques, et notamment autour des lichens, qui sont cet être mi-animal, mi-végétal, qui colonise et qui supporte les pires affrontes de la météo. Donc il peut résister au gel, aux grandes températures, au manque d'eau, au manque d'oxygène, et continuer à vivre. Donc c'est un exemple de résilience incroyable. Et c'est surtout quelque chose qui peut coloniser tout ce que nous avons construit, les murs, le béton, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui nous montre comment on peut s'adapter, et qui sera probablement dans le futur aussi une source de découverte, de possibilité de se nourrir avec, etc. etc. Et donc, c'est bien sûr des installations d'artistes, mais quand vous rentrez dans cette pièce, entre ce son et cette installation visuelle, ce qu'on souhaite, c'est de faire ainsi que chacun puisse rentrer en résonance avec soi-même et avec l'environnement qui l'entoure, et qui puisse sortir de l'exposition ayant envie de faire quelque chose.
Alors la rue des transitions, Tisson, la ville de demain, est un travail finalement très collectif avec beaucoup d'intervenants extérieurs. Vous êtes aussi venu à la rencontre des enfants, par exemple, du centre d'animation, mais aussi vers les résidents un peu plus âgés, du foyer du Mail, je crois. Et il y a cette volonté donc de faire participer tout le monde. Je disais tout à l'heure, on termine cette exposition avec la salle numéro 6, mais en fait non, parce que cette exposition va évoluer tout au long de ces quasi 10 mois. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Quel regard vous imaginez, vous? Est-ce que vous évoluez aussi avec l'exposition? Est-ce que vous allez apporter aussi d'autres touches? Comment vous l'imaginez? Est-ce que vous imaginez aussi de revenir régulièrement pour voir l'avancement?
Alors, on va revenir, c'est sûr, puisque d'autant plus qu'on a, on a prévu avec Costanza différents ateliers qui sont proposés donc gratuitement et qui sont dans le programme du site Le Corbusier. Mais c'est une exposition qu'on porte en nous et c'est une réflexion qui, à différentes échelles, nous a beaucoup
appris.
Et qui nous a appris à faire des choix aussi différents en tant que designer. On l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'éléments qui sont issus du réemploi. Il y a beaucoup de techniques aussi artisanales qu'on a, qui en fait génèrent des irrégularités ou des surprises qui potentiellement auraient été supprimées ou qu'on aurait décidé d'écarter dans un autre cadre.
Dans un processus industriel, par exemple, ou dans une quête d'une perfection.
Et c'est des choix qu'on a fait de conserver tout ce qui était produit. Et donc ça, c'est une expérience, en tout cas personnellement, qui était différente et qui n'est pas si évidente que ça.
Mais nous avons... Non, on a appris plein de choses. Je pense rien qu'au traitement des polices, de la fonte que nous utilisons pour les panneaux. Donc Caroline a appris à commander un ordinateur, comment régler une police. On a appris cette technique de tufting.
On s'est formé à énormément de choses. En fait, d'ailleurs, on ne l'a pas précisé, mais le tufting, donc oui, on a appris à la terrassure d'Orlais, à la turbine créative, qui est un lieu où justement on peut se former à ces techniques-là. Et c'était important pour nous que les savoir-faire qu'on convoque, puisqu'on invite aussi beaucoup le visiteur à faire, ce soit des savoir-faire appropriables par tous et populaires. Le textile, ça renvoie aussi à une forme d'expression plastique, notamment, enfin, qui a été beaucoup utilisée par les femmes. Et c'est quelque chose qui était important pour nous en abordant le sujet de la ville en transition.
Et bien sûr, les techniques féminines sont très importantes pour nous, mais ce qui nous tient aussi à cœur, c'est le travail collectif. Par exemple, dans cette exposition, on a décidé, on avait besoin d'avoir un catalogue. C'est la trace qui reste quand l'exposition disparaît. Et on ne voulait pas faire un catalogue normal, à feuilleter, à ranger, un catalogue qui afficherait des mots d'experts. Et pour rester en ligne dans cette avec l'exposition, on a plutôt décidé de travailler par binôme, des binômes où l'écrit ou le dessiné n'aurait pas déprimoté l'un sur l'autre. Et on a convoqué 6 personnes différentes qui ne sont experts que de leur expérience de la vie et de la ville. Par exemple, un enfant, un scientifique, un élu, une habitante de l'unité d'habitation, un architecte. Et bon, on a convoqué notre copine d'intelligence artificielle, on vous dira après qu'est-ce qu'il en est. Et en phase 2, 4 graphistes ou designers illustrateurs. On a mélangé tout ça avec un travail aléatoire. Et chaque binôme s'est emparé d'un des sujets de l'exposition, donc ce que vous avez entendu, et a travaillé chacun par ses moyens, donc l'écriture ou les dessins. Et ce catalogue, à la fin, c'est une série de 6 feuillets qui peuvent être assemblés ensemble ou utilisés en tant que tels, à lire et à regarder. Et nous les avons imprimés sur les presses du Grand Luxe, Chalet Suisse, donc un risographique, une technique artisanale. Et le côté illustré et le côté écrit présentent plein de variantes qui sont les erreurs d'ancrage, qui sont des coquilles qu'on n'a pas vues, qui sont des formulations des uns des autres, qui ne sont pas particulièrement habitués à utiliser le langage écrit. Et on a voulu garder tout ça ensemble et je vous encourage vraiment à lire ces 6 témoignages et à regarder ces 6 images qui sont un spectrogramme de la vie, de l'opinion, comment dire, de qu'est-ce que les gens imaginent de leur futur dans 25 ans, quelqu'un qui a 9 ans aujourd'hui, quelqu'un qui en a plutôt 65. Et toutes ces voix ensemble font une espèce de représentation chorale de ce désir qu'on a aussi de vivre et de travailler ensemble pour penser ensemble ce qui nous attend.
Alors, un catalogue et une exposition, la rue des Transitions, tissons la ville de demain, à découvrir donc jusqu'au 12 janvier 2025, découvrir et redécouvrir. Merci Costanza Matteucci, merci Caroline Manovitch d'être venue dans cette émission Module Onde.
Merci Nicolas.